Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 2 février, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, pas besoin de faire un immense dessin. Les prochains jours, les prochaines heures nous apportent du temps froid. Pour Montréal, je vais me concentrer parce que à travers le Québec, on a des scénarios de froid extrême, ce qui est aussi vrai pour Montréal avec des conditions météo spéciales. Donc, on résume, faible neige actuellement avec moins 5 degrés. Ce sera venteux aussi et on parle d'un maximum pour la journée de moins 2. Alors, c'est quand même pas si mal. Ce soir et cette nuit, ça commence avec de la faible neige intermittente. Ce sera des averses de neige beaucoup plus fortes durant la fin de soirée. Les vents vont quand même créer de la poudrerie en soirée, même durant la nuit. Et au total, on parle de 2 cm de neige qui pourraient s'accumuler. Et les vents, là, c'est 40, 60 et dans certains cas du nord-ouest, 70 km/h. Donc, pour la nuit prochaine, c'est un minimum de moins 22 avec un refroidissement éolien de moins 35. Demain, vendredi, c'est du soleil, il y aura de la poudrerie par endroit demain matin. Température pour atteindre, donc à la baisse, pour atteindre moins 25 durant l'après-midi. Ce qui fait que le refroidissement éolien, je sais que c'est un peu arbitraire, là, puis que ça ne veut pas nécessairement traduire la réalité de tout le monde, mais ça nous donne, appelons ça une base de référence, moins 35 le matin et moins 41 en après-midi. La nuit de vendredi à samedi, ce sera ciel dégagé, encore plus froid, moins 27. Et puis samedi, c'est du soleil, moins 17. Alors qu'on aura de la neige intermittente, probablement 5, 6, 7, 10 centimètres pour donc dimanche, avec un maximum autour de moins 3 degrés. Ça veut dire que le froid intense, ça commence ce soir, la nuit prochaine, demain toute la journée, et la nuit de vendredi à samedi, puis même samedi, là, c'est moins 17, c'est moins pire, mais c'est quand même assez sérieux. Premier constat qu'on peut faire. Le deuxième, on le sait tous, ça veut dire une pression énorme sur Hydro-Québec pour répondre à la demande des Québécois. Et à chaque fois, on a l'impression qu'on va atteindre un niveau de consommation record. Puis les gens d'Hydro-Québec, ils nous le disaient ici hier matin, sont capables de livrer, et ça veut dire couper dans les exportations, puis même acheter, notamment pour les périodes de pointe. Toujours les mêmes conseils. Essayez de limiter votre consommation. Faites pas tout marcher en même temps, surtout pas durant les heures de pointe, donc les heures le matin également, durant la période du repas. Et puis le volet aussi de l'itinérance qui est important. Montréal qui annonce quand même que des refuges de sans-abri temporaires seront ouverts parce que ça déborde. Et là, on se demande, est-ce qu'on sera capable d'avoir une place au chaud pour tout le monde? Et ça semble pas simple. Il y a cette réalité montréalaise, mais on le sait, l'itinérance, c'est pas strictement urbain Montréal, là. Ça se passe aussi dans d'autres villes du Québec. Et on a l'impression que ça déborde. Alors, est-ce qu'on va être capable de trouver de la place? Je sais qu'il y aura des patrouilles préventives durant la nuit, puis on concentre évidemment beaucoup d'efforts Vieux Montréal, centre-ville, mais on sait que il y en a qui se déplacent ailleurs. Alors, c'est sûr que c'est un enjeu important, puis les policiers puis les travailleurs sociaux vont avoir, disons, des heures assez occupées. Bon, maintenant, le panier d'épicerie. Je vais vous en parler parce que deux phénomènes qu'on a observés, là. D'abord, une escalade des prix. Après ça, opération marketing, notamment de Provigo, Maxi, qui disait, l'aube-là, là, qui disait, nous, on fait un gel jusqu'à la fin janvier. Donc, à partir du 1er février, ce sera autre chose. Métro a répondu, le président, M. Laflèche, était ici, en disant, on fait ça de toute façon à chaque année, ce qu'ils appellent un blackout dans l'industrie. Il n'y a pas d'augmentation de prix entre fin novembre et 1er février. mais là, je peux vous dire que ça va grimper. On s'attend à des augmentations importantes. Et quand je dis importantes, là, ce sont des augmentations non seulement majeures, mais sur beaucoup de produits. Puis des produits, comme on dit, de première nécessité, même sur les fameuses marques maison. Alors, l'Aubla confirme que le gel de prix de sa marque maison prend fin aujourd'hui. Puis là, je le sais que toutes sortes de jeux dans l'industrie. Tu sais, t'augmentes les prix en fou, après ça, tu décrètes un gel. Tu sais, les gens se servent puis tentent de nous séduire en disant, regardez, il n'y aura pas d'augmentation. C'est facile à dire quand tu as pris la hausse avant et que tu fais de l'argent. Ça veut dire donc qu'avant le gel, il y a eu des augmentations importantes. Et autant les manufacturiers que les bannières nous disent que c'est pas demain la veille que les prix vont baisser. Et ça veut dire que les gens doivent faire des choix. Et on voit la popularité croissante de ce qu'on appelle les supermarchés à rabais, là, les fameux Maxi Super C. C'est Métro qui dit on va être quand même dans cette tendance puis qu'on va ouvrir d'autres Super C. Alors, c'est clair que février-mars, attendez-vous à payer encore plus cher pour votre panier d'épicerie. Puis il y a des produits que vous allez faire le saut. Un auditeur me disait qu'il y avait, comme tout le monde, un peu ses habitudes, ses produits préférés. Puis ses repas préférés qu'il fait sur une fréquence régulière. Puis là, il dit, non, oublie ça, là. T'sais, je préfère m'en passer que de payer un prix de fou. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent, c'est aussi un peu des fois par principe. Parce que tu trouves que là, c'est comme too much. Tu sais, les fraises en hiver, on a-tu besoin de ça, nécessairement? Je sais qu'il y a des fraises de serre au Québec, là, mais c'est pas donné. Alors, les consommateurs vont faire des choix. Et puis, il y a une étude ce matin de l'Université Dalhousie, prof Charlebois qui sera avec nous tantôt, qui nous parle de l'utilisation de l'argent comptant. Est-ce que vous payez encore en argent comptant vos dépenses? Et on se rend compte que l'utilisation de l'argent continue de baisser au Canada. C'est environ 22 % des achats qui sont payés avec de l'argent en comptant. En 2017, c'était 33 %. En 2009, c'est pas si loin, là, c'était 54 %. Et il y a d'autres pays où c'est encore plus marginal. Personne ne paie avec de l'argent comptant. Tout le monde a sa carte de plastique, carte de crédit, carte de débit. Et dans les supermarchés, on se rend compte, puis surtout, ça coûte tellement cher que tu veux pas te promener avec autant d'argent liquide dans tes poches. Mais 60 % des Canadiens pensent que ce serait discriminatoire de refuser l'argent comptant puis de dire « ici, ce n'est que le paiement électronique ». Puis que donc, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas accès, peut-être un compte bancaire ou n'ont pas accès à des cartes, ils peuvent pas payer autrement. Il y a encore beaucoup de petits commerces qui demandent d'être payés comptant. Il y en a moins, mais il y en a. Moi, il y a un endroit où j'allais acheter des bagels. C'était hors de question de payer autrement que comptant. Là, ils ont changé l'approche. Ça prend un achat minimal et ils peuvent prendre une carte. Mais on voit là que le paiement comptant s'effiloche pas mal au fil, disons, des mois et des années. Juste une petite parenthèse sur les profits dans certains secteurs de l'économie. Depuis le début de la semaine, on voit les profits de l'industrie pétrolière, des profits records pour ExxonMobil, des profits records pour Shell. Il y a toujours quelque chose d'un peu indécent de voir que le prix à la pompe, puis je le sais, là, beaucoup de gens font l'exercice, là, quand tu regardes le prix du brut, tu dis comment ça se fait que ça monte facilement puis que ça redescend, disons, un peu plus lentement. Il y a toujours une justification. Les coûts de production, le climat géopolitique, là, on connaît tous l'argumentaire, mais quand tu regardes la ligne à la fin, tu vois les gens du pétrole se remplir les poches. Et hier, j'ai entendu le ministre Benoît Charrette nous annoncer que Québec va subventionner les plus gros pollueurs. Alors, Suncor, Rio Tinto, donc des gens qui polluent, 20 millions de subventions pour réduire leurs gaz à effet de serre. Je comprends la volonté là d'amener des pollueurs à faire moins de dégâts, mais est-ce que c'est aux contribuables de verser de l'argent à des Suncor, à des Rio Tinto qui font des profits, puis je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire et quels sont les engagements. T'sais, on a subventionné l'industrie pétrolière à tour de bras. Et là, on se ramasse avec des subventions pour ces entreprises. Et je vous le dis, là, je suis pas un communiste, là, mais je trouve qu'il y a des limites à l'indécence. À force de fournir de l'argent à des entreprises qui sont déjà dans un système là où ils peuvent continuer à polluer sans trop de soucis. Puis là, est-ce que ce sont des opérations de marketing, de faire des études, puis ça change pas grand-chose à leur pratique? Donc, on va en parler avec le ministre Benoît Charrette ce matin. La firme McKinsey, le grand patron de la firme pendant des années, s'est présenté hier devant un comité au Parlement canadien. Dominique Barton, qui est un maître du faux fuyant, de l'échappatoire et de la réponse alambiquée, je dirais. Bref, il est très habile, M. Barton. Il dit, non, je ne suis pas un ami de M. Trudeau, je n'ai pas son numéro de téléphone personnel. J'ai été nommé ambassadeur, mais je n'ai jamais participé d'une rencontre seul avec lui. Et dans le fond, si McKinsey a autant de contrats, c'est que les gouvernements sont archaïques. Les gouvernements ne prennent pas à cœur la formation et sont dépassés. Et pour les aider à sortir de l'ère préhistorique, ben ça prend des firmes comme McKinsey. Bizarrement, c'est McKinsey qui, il l'a reconnu, là, génère énormément de contrats. Puis ce fameux, c'est pas un contrat, mais cette entente qui peut amener des contrats jusqu'en 2100. Puis d'ailleurs, il paraît que c'est pas la seule entreprise qui a ça, là. C'est assez spécial, là. Alors, et il n'a pas voulu non plus parler des conflits d'intérêts potentiels. Et c'est ce bout-là qui m'achale, au-delà de la durée des contrats. Quand une firme reçoit un mandat, elle devrait au moins avoir l'honnêteté de dire non quand il y a un conflit d'intérêts. Le problème d'une firme comme McKinsey, c'est qu'ils sont tellement partout qu'ils sont toujours en conflit d'intérêts. Et je rappelle, pour les gens que ça intéresse, le livre « When McKinsey Come to Town », ce que ça veut dire et les exemples. Puis toujours la même défense. Nous ne prenons pas les décisions. Nous fournissons des analyses et des conseils. Donc, si on a décidé, par exemple, de stimuler les ventes d'opioïdes par tous les moyens avec la crise qu'on a connue, ben, c'est la pharma. Puis nous, on n'est pas vraiment responsable de ça, même s'ils ont été quand même poursuivis. Bon, le dossier de Amira El-Gawabi, rencontre avec Yves-François Blanchet. Elle s'excuse, Québec répond aussitôt, c'était pas, disons, une surprise, là, trop peu, trop tard, puis finalement, c'est pas la bonne personne pour ce type d'emploi, pour essayer d'établir des ponts entre les communautés. Puis d'ailleurs, on pourrait débattre, là, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un spécifiquement sur l'islamophobie, ou si on ne devrait pas avoir une ou des personnes sur le racisme en général, parce que d'autres groupes souffrent du racisme. Et il y a peut-être un risque de vouloir mettre l'accent sur une communauté seulement. Puis on le sait, là, les musulmans à Toronto, les musulmans à Montréal, à Québec, on n'a pas besoin de faire un dessin, savent ce que c'est que cette forme d'intolérance. Alors, M. Trudeau, lui, persiste et signe et continue de dire que c'est maintenant réglé. Hier, elle a dit qu'elle est extrêmement désolée de la façon dont mes propos ont blessé le peuple québécois. Et c'est ce qu'elle a tenu à dire au chef du Bloc. Plus t'attends, moins t'as l'air sincère. Alors, je pense pas qu'elle va démissionner, je pense pas qu'on va la limoger. Et là, Québec dit, puis il y a toute la récupération autour, là. Tu sais, je vous le disais hier, le député de Québec solidaire qui est en train d'en faire une victime, tu sais, la femme voilée, martyrisée par les médias et le peuple. C'est un peu gros, là. Tu sais, c'est un peu énorme. Maintenant, autre chose, ce matin, la presse nous parle du Centre de services scolaires de Montréal qui cherche des profs qui ne sont pas légalement qualifiés. On manque tellement de personnel qu'on a besoin de ces profs. Donc, pour enseigner à des élèves du primaire et du secondaire qui ont des difficultés. Alors, dans les écoles cette année, le nombre d'enseignants qui n'ont pas de brevet est plus élevé que jamais. On n'est pas capable d'avoir assez de profs pour, et là je cite, « soutenir les apprentissages d'élèves du primaire, 4 à 12 ans, ou du secondaire, des jeunes qui sont à risque en situation de handicap, de difficulté d'adaptation, d'apprentissage, et le nombre d'enseignants non légalement qualifiés est en forte croissance. On a besoin de profs, on n'en a pas, et ça ne veut pas dire que ces gens-là sont pas compétents, ils ont une expertise ailleurs, mais ils n'ont pas tous les outils, normalement, qu'un prof devrait avoir en sa possession. Puis tu dis, ben c'est mieux comme ça que rien du tout. Et puis je termine en vous parlant de l'émission Enquête, qui présente ce soir avec The Fifth Estate de Radio-Canada, la CBC, le fruit d'une enquête sur un milliardaire québécois, un homme dont on entend peu parler, pas visible. Je me souviens de lui un peu parce qu'il a fait, il y a 10-20 ans, la manchette avec son entreprise Future Electronics, une entreprise qui vend des composantes électroniques, donc. Il est devenu milliardaire. Et ce que l'émission Enquête met en lumière ce soir, c'est pendant au moins une dizaine d'années, il a créé un système de recrutement de filles, de très, très jeunes filles, parfois aussi jeunes que 14 ans. Et tout ça pour son usage personnel, donnait rendez-vous à ses adolescentes qu'il payait dans des suites d'hôtels, Reine-Élisabeth par exemple, ou encore dans une maison de Westmount, sans donner son nom. L'équipe d'enquête affirme qu'il y a eu quand même des plaintes à la police, que les policiers ont fouillé ça, mais que malheureusement, il n'y a pas d'accusations qui ont été portées contre lui. Également, il y a des témoignages, je prends Sophie, qui raconte qu'elle avait 14 ans lors de ses premiers échanges sexuels avec Miller, qui lui avait donc la soixantaine. Il ne s'était pas protégé, c'était dégueulasse, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé à autre chose. Ça se passe au Reine-Élisabeth au tournant des années 2000. Elle était accompagnée de l'ami qui l'avait recrutée, mineure elle aussi, parce que c'est ce qu'il faisait. Il demandait aux filles, peux-tu me présenter des amis? Alors, M. Miller, qui a aujourd'hui 79 ans, qui serait assez malade, a fortement nié ses allégations, ses témoignages, mais refuse quand même de donner des entrevues. Donc, on va vous en parler tantôt avec Brigitte Noël, qui a fait l'enquête et qui est allée chercher beaucoup de ses témoignages.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On a parlé quand même au début de la semaine de la suspension par la Société d'assurance automobile du Québec d'un bon nombre de services. Tout ça parce qu'on est en train d'implanter un nouveau système informatique pour justement faire fonctionner une plateforme qui s'appelle SACCLIC. Et il y a des services qui sont maintenus puis d'autres qui sont repoussés jusqu'après le 20 février. Jean-Philippe McKenzie est avec nous, vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier à la Société d'assurance automobile du Québec. Monsieur McKenzie, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Très bien. J'ai quelques questions à vous poser avant de parler des services. D'abord, là, on en est où dans l'implantation du nouveau système? Ça a commencé le 26 janvier?
Exactement. Tout va bien. On suit exactement le plan qui était qu'on s'était fixé. On avait fait des répétitions avant de se lancer le 26. Puis hier, on a franchi une étape hyper importante là, dans le plan où nos technologies sont devenues en lecture seule. Donc, on a pris hier la photo des données qu'on est en train de convertir, puis ça a commencé hier soir dans la nuit. Donc, ça suit exactement le plan qu'on s'était fixé.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres étapes cruciales, plus déterminantes?
Ben, il y a 15 000 étapes là, actuellement dans notre plan. On a 3000 étapes de franchies jusqu'à présent. C'est sûr que la conversion des données, c'est l'étape la plus importante, puis c'est l'étape la plus longue aussi. Comme en début de semaine, là, mon collègue l'avait expliqué, c'est 10 milliards de données qu'il faut ramener en 1 milliard, parce que dans ce 10 milliards-là, un client peut avoir 5, 6, 7 fois la même donnée client. Donc, il faut que pour la réouverture des services, ben, le dossier client soit, ben, devienne un dossier unique, là. Donc, c'est ça notre défi, c'est la conversion puis le ménage dans les données.
Est-il possible que ça fonctionne pas le 20 février puis que vous deviez prolonger?
Ben, actuellement, avec les répétitions qu'on a fait, les essais qu'on a fait, les tests de charge puis tout ça, on n'a pas d'indicateur comme de quoi que ça fonctionnera pas le 20 février. Est-ce que tout va être parfait puis il y aura pas de petits enjeux dans certains services? La réponse c'est non. C'est sûr que dans le contexte de l'ampleur de ce qu'on est en train de transformer, parce que certains ont dit que c'était juste une mise à jour de site web, de la maintenance de technologie, là, c'est loin d'être ça. Là. On est en train d'intégrer 40 ans d'histoire, différentes filiales de la Société d'assurance auto qui se sont intégrées avec nous au fil du temps. Donc, on construit une nouvelle infrastructure, 300 systèmes qu'on est en train d'intégrer. C'est la plus grosse transformation numérique actuellement en Amérique du Nord. Puis, qui dit transformation numérique, t'sais, on s'en va à l'ère moderne. Là. Fait que les histoires de fax, on passe là. Donc, c'est un
choix. Mais justement, compte tenu de l'ampleur, j'imagine que vous avez un plan B si ça marche pas le 20 février ou le 19 février, compte tenu là, de c'est tellement gros, c'est tellement nouveau que vous devez avoir une stratégie prête si ça marche pas.
Ben, tout à fait. Actuellement, le plan principal, c'est que tout va marcher avec toutes les répétitions qu'on a fait, mais c'est sûr qu'on va être en mesure de calibrer nos services à partir du 20, si par exemple, je vais vous donner un exemple anodin, la prise de photo fonctionne pas à partir du 20. Ben, on va être capable d'offrir d'autres services, puis la prise de photo, ben, on va avoir des mesures de mitigation, puis on va être en mesure de replacer les clients. Faut pas se cacher aussi que dans l'ancien monde, ça arrivait, là, il y avait des pannes à cause de la désuétude de l'infrastructure technologique, puis nos équipes de services à la clientèle s'adaptaient à ces situations-là, puis étaient en mesure d'offrir les services. Donc, oui, il y a différentes approches pour offrir les services différemment, si ça fonctionne pas, mais on est convaincus, puis c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure-là, que tout va fonctionner.
Quelle est la firme qui implante le système?
C'est on travaille avec l'Alliance, c'est LGS, LGS à Québec. Là.
OK, mais c'est une firme?
C'est la firme qui nous accompagne, c'est la société qui implante. Là, on est maître d'œuvre de notre projet, mais on est en partenariat avec LGS là, qui a gagné un appel d'offres. On utilise des technologies SAP. Qui sont un leader mondial là, dans les dossiers clients, les systèmes de facturation puis tout ça. Fait que c'est pas des technologies qu'on a construites de nous tout seul. On a acheté une technologie qui existait. Puis il y a déjà 2 ans, on a déjà fait une livraison 1 qu'on appelle ici, qui est une première implantation pour nos systèmes de ressources humaines, ressources financières, gestion contractuelle, gestion d'approvisionnement. Donc, on fonctionne déjà à l'interne avec ces technologies-là. Là, où on s'en va, c'est pour nos clients.
Okay.
Le dossier client, le front office.
OK. Ça va coûter combien, juste avant de passer à des questions plus pratiques? Là? L'opération coûte combien?
C'est un projet de 458 millions.
OK. Je veux juste comprendre un certain nombre de choses. Ce que on m'a expliqué, là, puis vous me direz si c'est ça ou pas, je veux vendre mon auto, j'ai un acheteur privé, là, une autre personne, je peux pas faire la transaction jusqu'au 20 février.
Pour les transferts en particulier, vous avez tout à fait raison. Actuellement, c'est un service qui est suspendu. Par contre, les véhicules peuvent être achetés à des commerçants de véhicules usagés ou des commerçants de véhicules neufs. Les commerçants sont en mesure d'émettre des certificats de matriculation temporaires pour autoriser le véhicule à circuler. Le défi de l'immatriculation, c'était qu'on pouvait pas émettre de nouvelles plaques d'immatriculation pendant cette période-là.
Okay,
donc, les commerçants peuvent assurer la circulation des véhicules, puis à partir du 20, on va compléter les transactions d'immatriculation pour que ça soit conforme dans le registre d'immatriculation.
OK, juste comprendre, là. Vous me dites, un commerçant peut émettre un certificat temporaire, là, c'est ça?
Tout à fait.
OK, vous ne pouvez pas le faire.
On n'est pas dans cette dynamique que nous, on ne peut pas le faire. Dans le contexte actuellement, on a travaillé en partenariat avec l'écosystème des commerçants.
Non, ça, je comprends, mais.
Pour que ce service-là soit offert par les commerçants.
Je comprends, là, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai une auto, mettons, à vendre, je la vends. si je passe pas par un commerçant, faut que j'attende. Vous auriez été capable ou pas à la société d'assurance d'émettre un permis temporaire ou un certificat temporaire?
Ben, le plan de match qu'on s'est donné, c'était que les clients puissent le faire de façon numérique. Puis ce qu'il faut se dire aussi, là, c'est que pendant cette période de transition-là, on est complètement en mode manuel. Donc, imaginez-vous que toutes les opérations, par exemple, on va y aller sur un service qu'on offre, parce que ça va nous permettre de comparer les situations. Un client qui perd son permis de conduire ou qui perd sa plaque d'immatriculation, on va lui émettre une lettre pendant cette période-là, puis cette lettre-là, ben nos équipes, avant le 20 février, avant la réouverture des services, là, pendant ce week-end-là, nos équipes vont toutes réintégrer les données des clients pendant la période de transition. Donc, on n'avait pas le choix de diminuer le volume de transactions pendant cette période-là, parce qu'on aurait été obligé d'allonger encore une fois la période d'intégration de données. Donc, on s'est fixé le délai minimum. Nos équipes, avec les services essentiels, okay, les services critiques qu'on offre, vont réintégrer l'ensemble des données dans cette période-là.
OK, mais
et c'est les éléments les plus critiques.
Mais c'est un choix, puis vous avez le droit, là. Vous avez fait le choix de dire les commerçants peuvent le faire parce qu'ils sont équipés. Pour des transactions entre individus, on le fera pas. C'est un choix, là. C'est
exactement,
correct.
Tout à fait. C'est
OK,
un choix,
vous auriez pu le faire, mais vous avez fait le choix de pas le faire.
Ça fait partie de notre stratégie, vous avez tout à fait raison.
OK. Pour les gens qui partent vers, exemple, la Floride, qui veulent avoir une exemption pour se rendre, c'est pas dans les services qui sont couverts, exact?
Bon, ici, là, juste ça, c'est un excellent exemple d'ajustement qu'on est en mesure de faire dans notre période de transition. Les équipes ont été informées hier matin, là. Je parlais d'étapes qu'on a franchies tout à l'heure, là, mais hier, on a déployé une nouvelle mesure d'exception concernant le déremisage. Je vous explique comment elle va fonctionner à partir d'aujourd'hui. Les clients qui, pour des motifs économiques liés à l'emploi, des activités qui avaient déjà planifié à l'extérieur du pays, par exemple des activités rémunérées ou des dépenses puis des engagements pris à l'extérieur du pays, ou pour des motifs humanitaires, parce qu'il y a certains clients qui nous ont contactés en disant qu'ils devaient déremiser un véhicule pour aller chercher des soins de santé aux États-Unis ou aller prêter main forte à la famille. Donc, à partir d'aujourd'hui, les clients vont pouvoir se présenter dans les points de service avec des documents là qui démontrent la situation, puis le client va recevoir une lettre français-anglais, parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est que nous, on émet la lettre, mais dans les systèmes nord-américains, les policiers, eux, ont accès à la photo qu'on a prise avant le début de la conversion des données. Donc, il va avoir un numéro de téléphone sur cette lettre-là si le client se fait interpeller pour que le policier, par exemple, américain, puisse appeler la société pour confirmer la validité de la lettre, mais c'est possible à partir d'aujourd'hui avec des mesures d'exception.
OK, là, c'est beaucoup d'infos en même temps. Là, juste comprendre, là, si je travaille aux États-Unis, je fais partie de cette catégorie. Mais un retraité qui vous écoute ce matin, qui a loué un terrain, je sais pas moi, dans le bout de Pampano, est-ce qu'il peut le faire? Faut qu'il vous présente une preuve qu'il a loué un terrain? Pour des gens, les snowbirds, là, est-ce que c'est bon pour eux, ce que vous me parlez?
Exactement. C'est ce qu'on rentre dans la catégorie dépenses engagées à l'extérieur du pays avant le début de la période de transition. Fait que oui, pour répondre à votre question.
OK. L'autre scénario, je suis propriétaire, par exemple, je sais pas moi, d'un condo en Floride, puis je décide d'y aller en auto. Si je vous prouve que je suis propriétaire d'un condo, est-ce que ça aussi, ça rentre dans la catégorie que vous parlez?
Ben, j'espère que ce client-là a déjà son véhicule de déremiser. Mais si c'était pas le cas, puis il doit déremiser son véhicule, ouais, pour aller s'occuper de son condo, ça fait partie là des activités, des éléments d'exception pour motifs économiques.
Bon, posez la question à l'envers. À qui vous donnerez pas l'exemption?
Ben, à des clients qui ont décidé, mettons, aujourd'hui, de réserver un terrain de camping, puis il n'y avait pas d'engagement pris avant la période de transition. Ça, c'est un exemple.
OK. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des discussions avec la Sûreté du Québec pour faire preuve, disons, d'une certaine tolérance avec des gens qui, visiblement, là, sont en déplacement vers le sud, là, même s'ils n'ont pas les papiers requis?
Ben, on a rencontré l'ensemble des administrations routières, Ontario, Nouveau-Brunswick, les administrations aussi limitrophes nord-américaines des États-Unis. On leur a parlé de ce qu'on faisait, les corps policiers, on leur a expliqué aussi l'ensemble des lettres, des dispositions temporaires qu'on implantait pendant la période de transition. Donc oui, l'ensemble de nos partenaires sont informés puis bien au fait de ce qu'on est en train de vivre puis des dispositions temporaires qu'on met en œuvre.
Mais est-ce que, par exemple, le partenaire Sûreté du Québec vous a dit on est d'accord pour être un peu moins à cheval là, pour cette période de transition là, notamment je parle des déplacements là, avec des véhicules qui vont vers le sud?
Ben, les partenaires nous ont tous confirmé qu'ils étaient compréhensifs par rapport à la situation qu'on vivait, là. Ça, c'est clair.
Okay.
Parce que c'est un avantage pour eux aussi, ce qu'on est en train de faire pour la suite.
Parfait. Merci, M. McKenzie.
Merci.
Au revoir. Jean-Philippe McKenzie est vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier à la Société d'assurance automobile du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Un reportage choc sera présenté ce soir à l'émission Enquête de Radio-Canada, conjointement avec l'émission de Fifth Estate pour le réseau anglais, concernant un milliardaire québécois montréalais, extrêmement discret, Robert G. Miller, à la tête d'une entreprise qui s'appelle Future Électronique et qui fabrique des composantes électroniques. On y apprend, grâce aux témoignages de jeunes femmes, qu'elles ont fait partie d'un système de recrutement que M. Miller les recrutait donc, il y avait même des intermédiaires, pour, je dirais, des relations sexuelles exclusives dans des maisons ou encore dans des suites d'hôtels. Il faut préciser qu'il n'a jamais été accusé formellement, bien qu'il y ait eu enquête des policiers le concernant. Brigitte Noël est avec nous, journaliste à l'émission Enquête de Radio-Canada. Brigitte Noël, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous parler de Robert G. Miller avant de regarder les faits qui l'entourent. Là. Qui est-il exactement?
Oui, donc on parle d'un des hommes les plus riches du Québec, un homme qui, selon Forbes, a une fortune d'environ 2 milliards de dollars américains. C'est, comme vous l'avez dit, le fondateur d'une entreprise, Future Electronics, quand même une très grosse entreprise, distribue des composantes électroniques partout à travers le monde, 44 pays où il y a des succursales, elle emploie 5500 personnes. Mais malgré sa fortune, ce succès, c'est pas quelqu'un qu'on connaît très bien, c'est pas un nom que la majorité des Québécois connaissent. C'est quelqu'un qui protège beaucoup sa vie privée, donc il donne très peu d'entrevues, il y a peu de photos de lui en circulation, donc quelqu'un de très privé. Et qui brouille sa maison sur Google Street View, là, deux jets privés qui sont difficiles à retracer, pas facile de retrouver leur voyage. Donc,
c'est
le portrait du personnage.
OK. Vous avez reçu des témoignages de jeunes filles qui ont été exploitées sexuellement par Miller. Il y en a quand même plusieurs là, qui ont témoigné.
Nous, on a contacté ou on a recueilli les témoignages de plusieurs filles. 10 nous ont confié leur histoire en détail. De ce lot, 6 étaient mineurs. De 14 à 17 ans, donc, et qui nous parle d'avoir été recrutée souvent par d'autres jeunes filles. C'est des jeunes filles sans histoire de Montréal et des environs qui ont rencontré M. Miller dans des hôtels et ensuite dans une maison qui n'était pas la maison de M. Miller, qui était une maison qui semblait servir à ses rendez-vous. Et ces jeunes filles nous racontent à peu près toute la même histoire. C'était un véritable rituel. Donc, elles rencontraient M. Miller, il leur servait un verre d'alcool, il leur donnait des cadeaux. Et dans la maison, par exemple, elles descendaient au sous-sol où elles décrivent un véritable magasin où elles pouvaient choisir des sacs à main, des vêtements, des téléphones, des fois, des CD. Elles remplissaient des sacs de hockey de cadeaux et ensuite, elles passaient à l'étage où M. Miller leur demandait de se laver et ensuite de passer à l'acte. Et pour ça, elles étaient rémunérées des montants assez impressionnants, allant de 1 000 à 4 000 $ par visite.
Est-ce que ça veut dire que ces jeunes filles faisaient plusieurs visites à M. Miller? Est-ce que c'était des rencontres une fois, puis après ça, ils recrutaient ailleurs ou il y avait comme ces habitués?
Il y avait certaines habituées, d'autres sont allées seulement qu'une fois, ça dépendait d'une fille à l'autre. Certaines ont visité pendant des années. Ensuite, elle nous explique que M. Miller offrait à certaines une prime pour leur amener d'autres filles. Donc, elles allaient chercher des amis, des camarades à l'école. Et aussi, elle nous confie que si elles amenaient quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas elle qui se retrouvait à devoir coucher marché avec M. Miller. Et je dois le dire, M. Miller nie tout.
Oui.
Il dit que les allégations sont fausses, sont malicieuses. Son avocat nous dit que M. Miller n'a pas pu nous donner d'entrevue pour ce reportage parce qu'il souffre de la maladie de Parkinson. D'ailleurs, c'est une de ses défenses. À cause de cette maladie-là, ils nous ont fourni des notes de son médecin, d'un neurologue, qui dit que depuis 20 ans, M. Miller a de graves problèmes érectiles. Mais dans les mêmes correspondances, il nous dit aussi que M. Miller n'a jamais couché avec une personne qui n'avait pas l'âge de consentement. Cet âge, c'est à la période des allégations, on parle de 14 ans. Mais nous, on a consulté des experts qui nous disent que le code criminel est quand même clair là-dessus. Quand une personne mineure est rémunérée pour une relation sexuelle, c'est illégal.
Bon, ça aurait duré combien d'années, ce stratagème?
Les témoignages que nous, on a recueillis commencent en 94 et vont jusqu'à 2006.
OK. Vous l'avez dit, bon, il a tout nié par le biais de son avocat, parle de son état de santé. Mais vous dites aussi que le SPVM a enquêté là-dessus et qu'il n'y a pas eu de suite.
Oui, le SPVM, on le sait, a enquêté en 2009 jusqu'à environ 2010. On a parlé à certaines personnes qui avaient été interrogées, qui ont donné leur témoignage à la police. Certaines des filles ont senti qu'elles avaient été un peu traitées comme des criminels dans cette histoire. On se souvient que les filles avaient amené des amis, elles avaient recruté dans leurs écoles et donc elles disent qu'on les avait menacées d'accusations de proxénétisme dans tout ça. Il faut se souvenir aussi que c'est en 2009 et que c'est avant MeToo, avant Epstein, avant toutes ces histoires et donc le traitement de ce genre d'histoire-là était peut-être différent. Donc c'est un peu pour ça que l'histoire sort maintenant, je crois, parce que là, il y a eu des exemples qui ont montré à ces filles que peut-être que c'est le bon moment d'en reparler.
Brigitte Noël, merci d'avoir été avec nous. C'est à regarder ce soir 21h à Radio-Canada, l'émission Enquête. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Parlons maintenant de la décision de Québec de subventionner les plus gros pollueurs du Québec. Tout ça pour les amener à réduire leur production de gaz à effet de serre. Le ministre Benoît Charrette de l'Environnement est avec nous ce matin. Monsieur Charrette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, Québec va dépenser combien, là, combien on va donner à Rio Tinto, Suncor et autres?
C'est un programme qui a été annoncé en juin dernier. On parle de 48 millions au total. Hier, ce sont 6 projets qu'on a dévoilés. Et au final, on pense pouvoir en accepter peut-être une dizaine de projets supplémentaires.
OK. Prenons un exemple. Rio Tinto, vous leur donnez combien, puis ils vont faire quoi avec l'argent?
Rio Tinto, hier, c'est une subvention là, de 7 800 000 $. Et pour chacun des projets, c'est la même rigueur, c'est le même principe. C'est-à-dire, on leur permet de réaliser des études technico-économiques pour se décarboner. Et l'avantage de ce programme-là, c'est qu'on va avoir copie des résultats de l'étude. Donc, dans nos efforts de décarbonation, c'est des données scientifiques, industrielles qui sont fort utiles pour mettre de l'avant des programmes éventuellement et s'assurer là, de l'atteinte des cibles de réduction de GES.
OK, donc ça veut dire que vous dépensez... En fait, vous leur donnez 7 millions pour faire des études et eux s'engagent à vous fournir les résultats.
C'est une obligation. C'est une obligation pour eux d'avoir copie, non pas uniquement des données parcellaires de l'étude. C'est une obligation de nous transmettre l'étude dans son intégralité. Donc, pour tout décarboner le secteur industriel, c'est des informations qui sont utiles et c'est important de rappeler que le secteur industriel au Québec est notre deuxième source d'émissions après les transports. Donc, si on veut atteindre nos cibles pour 2030, notamment, il faut s'attaquer aux émissions du secteur industriel. Okay. Autrement, on n'y arrivera pas.
OK. Mais ils n'ont pas l'obligation de faire quoi que ce soit à part l'étude, là.
En fait, le programme MADI, celui qui pour lequel on a annoncé des projets hier, c'est une première étape. Par la suite, il y a la conversion de leurs procédés industriels. Donc oui, c'est une étape qui est fondamentale pour passer à l'action par la suite. Et le secteur industriel a des cibles à atteindre aussi. Il faut savoir que le prix du carbone va augmenter sensiblement au cours des prochaines années. Donc c'est dans leur intérêt à se décarboner le plus rapidement possible s'ils ne veulent pas, s'ils ne souhaitent pas voir augmenter leur contribution à la bourse du carbone de façon significative.
OK. Prenons deux des entreprises. Rio Tinto, Suncor. Rio Tinto a fait un bénéfice net de 21 milliards en 2021, c'est-à-dire un profit qui a doublé par rapport à 2020. Suncor fait des milliards de profits. J'aimerais juste savoir pourquoi l'argent des taxes sert à donner 7 millions à une entreprise qui fait 21 milliards de profits.
Peut-être une petite précision à ce moment-ci, ce n'est pas l'argent des impôts des Québécois, c'est les entreprises elles-mêmes qui financent la bourse du carbone. Donc, ce sont des montants qui sont utilisés à même leur contribution.
Êtes-vous d'accord pour dire que ces entreprises refilent le prix de la bourse du carbone, comme les pétrolières, à l'usager? Aux payeurs de taxes, aux consommateurs.
Dans certains cas, oui, au niveau du prix à la pompe notamment, mais si on parle des alumineries, c'est bien difficile de mesurer quelle est la portion qui est refilée aux entreprises. Et moi, chaque année, quand je reçois le bilan des principaux émetteurs, j'ai les alumineries, j'ai les cimenteries et j'ai tout l'industrie liée aux hydrocarbures.
Okay, vous pensez qu'ils absorbent ça dans leurs profits? Vous pensez pas qu'ils leur filent dans le coût?
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Québec est une des rares législations dans le monde à imposer un prix carbone. Donc, ils ont des obligations au Québec qu'elles n'ont pas, ces entreprises-là, ailleurs dans le monde. Donc, un élément de concurrence qui est à leur défaveur. Donc, oui, il faut les appuyer. Nous, on veut les conserver au Québec. Et ne serait-ce que le secteur de l'aluminium, on travaille avec eux un superbe projet qui s'appelle le projet Elysis, qui dans les prochaines années va nécessiter pour les alumineries elles-mêmes des milliards de dollars d'investissement. Donc au Québec, on aura vraisemblablement l'aluminium le plus vert au monde. Donc on veut conserver ces entreprises-là présentes au Québec.
Mais, M. Charrette, avec tout respect, là, vous avez bu leur Kool-Aid, là. Une entreprise qui fait 21 milliards de profits, 17 milliards dans le secteur du minerai de fer, là. Puis ils ont besoin de 7 millions d'argent pour faire des études.
Comme je vous le mentionne, c'est la première étape d'une séquence qui va amener une décarbonation importante. À partir du moment où le projet Elysis sera développé au Québec, on parle de fabriquer de l'aluminium sans émettre de gaz à effet de serre. C'est une révolution industrielle qui est considérée. Les alumineries représentent une de nos principales sources d'émissions. Donc moi, j'ai une cible en 2030 à atteindre. Je vois qui sont nos principaux émetteurs. Donc, si on ne s'attaque pas à leurs émissions,
mais il y a différentes façons de s'y attaquer. Je voyais le professeur Pinault qui dit on serre pas tellement la vis aux entreprises. Le choix que vous faites, puis c'est un choix. Puis les choix, là, on peut les défendre jusqu'à demain. Vous dites, on va leur donner de l'argent à ces entreprises qui génèrent des milliards de profits. Et c'est pas de les forcer, de les contraindre, on va les aider, ils vont prendre tout l'argent que les gouvernements sont prêts à leur donner, en autant que ça leur coûte moins cher puis que leurs profits soient les plus élevés possibles.
J'ai beaucoup de respect pour le professeur Pion, on travaille ensemble, mais son point de vue n'est pas unanime là, sur ces questions-là. Il faut savoir que le prix carbone a augmenté significativement. Il faut savoir qu'on a des plafonds d'émissions aussi. Donc, ce n'est pas uniquement une contribution financière de la part des entreprises. Elles ont, d'ici 2030, des obligations de réduire leurs émissions. Et nous, on veut les conserver au Québec. Moi, je peux vous dire...
Pensez que Rio Tinto va disparaître du Québec? Pensez que vous ne donnez pas le 7 millions et ils vont s'en aller?
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le milieu, hier, ça a été très... Je peux vous dire que le projet Elysis n'est pas forcément un projet qui va s'établir au Québec lorsqu'il sera pleinement développé. Nous, on veut le conserver au Québec. On veut que notre aluminerie, notre aluminium qui est exporté à la grandeur de la planète soit le plus vert au monde. Ça va devenir un avantage compétitif important, mais il n'y a rien qui oblige les compagnies comme ça à développer leur projet au Québec par la suite. Mais nous, pour le développement économique de nos régions, pour avoir un secteur industriel fort, je tiens à ce qu'elles restent au Québec, mais en même temps, il y a des contraintes qui leur sont imposées à travers la bourse carbone, à travers les plafonds d'émissions qui sont amenés à baisser considérablement au cours des prochaines années. Mais comme je vous dis, les études, c'est une première étape. Par la suite,
OK, mais poussons votre logique. Ouais, poussons votre logique. Si Rio Tinto ou Suncor vous dit, ben, ça coûterait 200 millions pour procéder, donner suite à l'étude, puis on a besoin de 100 millions du gouvernement du Québec, allez-vous leur donner?
Il y a des programmes qui sont prévus et qui sont planifiés pour les aider à procéder à des transformations industrielles importantes. Dans le dernier plan de mise en œuvre qui a été présenté en mai dernier, si je ne m'abuse, au printemps tout le moins, c'est 1,3 milliard de dollars qui sont prévus pour aider le secteur industriel. Comme je vous le mentionnais d'entrée de jeu, on a deux gros secteurs émissifs.
Oui, non, je sais ça.
Le transport, mais, secteur industriel.
Monsieur Charest,
dans les deux cas, c'est des sommes considérables.
Je comprends. Mais en conclusion, les Québécois qui écoutent ce matin là se disent pourquoi, peu importe la nature de l'argent, là, pourquoi de l'argent public serait donné à des entreprises qui font des milliards de profits pour leur permettre d'émettre moins de gaz à effet de serre, d'être plus compétitif. Pourquoi l'argent des taxes, directes ou indirectes, servirait encore à faire plus d'argent à des compagnies qui font des milliards de profits?
Deux choses, j'insiste, c'est essentiellement à même les sommes que les entreprises ont elles-mêmes payées, que ces subventions.
Oui, puis ils nous ont fait payer, ils nous ont filé le prix. Tabarouette, vous avez vraiment bu leur collègue.
Ben, pas du tout. Moi, je vois les chiffres à chaque semaine et à chaque mois au niveau des émissions et j'ai une cible à atteindre pour 2030. Et je répète, ces entreprises-là, à l'échelle internationale, n'ont pas les pressions que le Québec leur impose. Donc, une
non, mais ils n'ont pas à l'échelle internationale le tarif préférentiel que Québec leur a donné.
Là, on d'hydroélectricité. Parle de sujet,
non, non, c'est la même affaire. Ce sont les mêmes entreprises. Également. C'est les mêmes entreprises.
Moi, je vous dis ceci. J'ai une cible à atteindre en 2030. Okay. Je sais que le secteur industriel est notre deuxième secteur d'émission. On aide le secteur industriel comme on aide le secteur des transports. Autrement, cette cible-là, on l'oublierait tout simplement. C'est pas notre objectif.
Non.
Moi, chaque année, je fais un bilan. À chaque année, je reçois le bilan de leurs émissions. Et je sais quelles sont les entreprises qui sont les plus émettrices. Et oui, et c'est sur une base volontaire. Hein. Moi, j'ai des grands émetteurs qui, honnêtement, là, je vous le dis franchement, j'aimerais beaucoup qu'ils frappent à notre porte. Moi, j'ai une dent contre la cimenterie mécaniste. La cimenterie mécaniste ne se prévaut pas de ces programmes-là. Mais si elle le faisait, je serais heureux. En toute franchise, là, je serais heureux okay. de pouvoir les accompagner parce que je vois ce qu'elles apportent en termes d'émissions année après année. Et ça plombe très, très sérieusement notre bilan d'émissions de GES.
Juste comprendre, est-ce qu'on peut dire que ces entreprises, année après année, malgré la taxe sur le carbone et tout ça, elles émettent chaque année plus de gaz à effet de serre?
Dans certains cas, oui. C'est le cas des secteurs névralgiques, cimenterie, aluminerie, la pétrochimie. Et encore une fois, c'est des secteurs qu'on doit décarboner. Mais
OK, mais juste que je comprenne, là, bien comprendre, les plus gros pollueurs du Québec pollue plus année après année.
Parce que leur volume augmente, notamment c'est le cas des cimenteries. Donc le volume augmente, oui, les émissions augmentent. Mais moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de voir d'autres émetteurs se prévaloir de nos programmes. Sinon, ce qui va les rattraper, c'est le prix du carbone. Ces entreprises-là auront à payer encore davantage pour les émissions qu'elles servent. Mais je vous rappelle, on me jugerait sévèrement si on se rapprocherait pas de l'atteinte de la cible en 2030. Donc, on met beaucoup,
mais vous avez
beaucoup
fait l'approche
pour y parvenir.
Je comprends. Vous avez le choix entre la carotte puis le bâton. Vous avez dit, moi, je leur donne la carotte, pas de coup de bâton.
C'est les deux. Mais en fait, j'aime votre expression. En fait, ce sont des milliards que ces entreprises-là auront et ont payé à travers la bourse du carbone.
Mais, votre prédécesseur à l'environnement, M. Hurtel, m'avait dit la même affaire. Voir si les compagnies pétrolières vont refiler ça aux automobilistes. Dans les faits, il n'y a pas une compagnie pétrolière qui a payé la taxe carbone. La compagnie pétrolière...
Je vous l'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, là, au niveau des pétrolières à la pompe, là, c'est chiffré. Là. Ça peut varier entre 7 et 8 sous le litre.
Bon,
ça, c'est assumé. Mais pour d'autres entreprises, les alumineries, entre autres, les cimenteries, c'est très difficile d'établir un impact pour le consommateur sur le prix du carbone.
C'est vrai ce que vous dites. C'est plus compliqué.
C'est
ça veut pas dire que... Non, mais c'est plus compliqué, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Vous êtes pas capable de calculer.
Ultimement, on voit que le prix du ciment, on voit que le prix de l'aluminium est très, très concurrentiel à l'échelle internationale. Donc, c'est difficile d'établir, voire impossible de même penser qu'il y a un impact pour le consommateur. Et vous avez parlé de M. Hertel, pour qui j'ai beaucoup de respect. On a énormément apporté de modifications au niveau du fonds d'électrification des changements climatiques, au niveau des critères pour la dépense okay. ou les sorties d'argent, pour la réduction de compte aussi de ces démarches-là. On est sur la bonne voie au Québec. On a la cible de 37,5% de réduction de GES à atteindre d'ici 2030. On progresse dans cette direction-là et à chaque année, on bonifie nos initiatives et à chaque année, on se rapproche de l'atteinte de la cible. Et je peux vous dire que les Québécois nous suivent de près à ce niveau-là et si on ne se rapprocherait pas de l'atteinte de la cible, le jugement serait très sévère. C'est la raison pour laquelle on bonifie nos offres d'appui année après année.
Merci, M. Charrette.
Un plaisir. Bonne journée à vous.
Benoît Charrette est le ministre de l'Environnement.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, on va parler du panier d'épicerie parce que on est rendu au mois de février. Le gel des prix ou le fameux blackout, comme on dit chez Métro Richelieu. Est chose du passé, ce qui fait que ça va coûter plus cher. Les gens de l'Aubla l'ont répété hier. Que ce soit les manufacturiers, que ce soit les bannières, ben, les prix vont grimper. Puis d'ailleurs, vos commentaires ce matin montrent que vous avez observé ces hausses. Puis en même temps, il y a une étude de l'Université Dalhousie sur l'argent comptant. Pas de surprise, c'est toujours en baisse, donc de moins en moins on paie comptant. Mais on n'a pas atteint, je dirais, ce qu'on voit dans d'autres pays, par exemple, où c'est carrément paiement avec carte de plastique. Sylvain Charlebois est avec nous. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour, Paul.
On voit qu'au Canada, ça baisse, là. Les transactions se font de plus en plus là, de façon électronique. Mais il y a encore quand même un bon nombre de cas où c'est l'argent liquide qui est utilisé.
Oui, absolument. En fait, à l'épicerie, là, au Canada, c'est 6% des Canadiens qui utilisent encore le comptant pour payer leur épicerie. Au Québec, c'est 5%. C'est très peu, là. Mais il y a quand même 1,5 million de Canadiens qui n'ont pas de compte de banque hein, au Canada. C'est quand même pas rien, là. C'est 6%. Puis il y a 15% de ces les Canadiens qui sont considérés comme sous-bancarisés, là, qui ont un compte bancaire, mais qui l'utilisent très rarement, ils l'utilisent pas de façon quotidienne. Alors, on s'aperçoit qu'à l'épicerie, la numérisation des transactions, vraiment, c'est de plus en plus populaire. Mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui se retrouve pas là-dedans. Là. Et il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, qu'on discrimine un peu envers les gens qui sont pas bancarisés ou qui sont sous-bancarisés.
OK, mais pourquoi en Suède, l'argent comptant a pratiquement disparu, par exemple?
Ben, c'est que les détaillants, c'est de l'ouvrage, hein, manipuler, gérer de l'argent comptant. Et de plus en plus, évidemment, les détaillants veulent se départir du comptant. On le voit de plus en plus. Il y a des caisses libre-service qui n'acceptent pas de comptant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les détaillants au Québec, au Canada, sont dans l'obligation d'accepter du comptant. C'est pas vrai. En fait, il n'y a pas de loi qui oblige personne d'accepter du comptant. Ce qui est toujours surprenant pour des gens qui ne savent pas, mais c'est le cas. Alors, d'ici 2028, il y a la majorité des Canadiens qui pensent qu'on n'acceptera plus de comptant à l'épicerie. Là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on s'en va vers là. Là.
Ben, souvent, on paie comptant parce que le commerçant nous l'impose. Là, encore, puis là, j'ai des endroits à Montréal en tête. Là, il y a une boutique où on vend des bagels. Là. Ils viennent tout juste d'accepter la carte de débit pour des transactions de 20$ ou plus. Sinon, si vous payez comptant, puis il y a d'autres, même des restaurants qui demandent à ce qu'on soit payé en argent, là.
Ouais, il y a des frais, hein. Quand on est commerçant, on utilise des cartes de crédit, on accepte des cartes de débit. Il y a toujours des frais liés à ces transactions-là. Alors, parfois, évidemment, il y a des commerçants qui veulent pas payer ces frais-là, donc ils acceptent que du comptant. Par contre, l'autre chose qui a été revue dans notre étude, c'est la vie privée, hein.
Ouais.
Vous savez, Paul, lorsqu'on utilise nos cartes, on laisse une empreinte. Hein?
C'est sûr.
Donc, on Il y a un contrat social qui s'établit où on donne de l'information aux commerçants. En retour, on nous offre une solution pratique pour payer. Mais eux, ils ont de l'information, là. Et la loyauté va être un champ de bataille pour les épiciers, surtout dans les prochaines années. Alors, on va utiliser cette information-là pour nous fidéliser, finalement.
OK. En parlant d'épicerie, le panier, là, ça va coûter plus cher. Là, la trêve, la pause est terminée, là. Qu'est-ce que vous voyez au loin, là? Y a-t-il des produits qui vont être plus touchés que d'autres? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce matin?
Les produits laitiers.
OK.
Depuis hier, là, les producteurs de lait obtiennent plus en argent pour leur travail, 2,2%. C'est la troisième hausse en un an, hein, Paul? Donc, c'est pratiquement 14% depuis 12 mois. Donc, probablement que le lait liquide va augmenter dans les prochains jours au Québec. Pour ce qui est des produits laitiers, là, on s'attend à une hausse là, pour le beurre, le yogourt, etc. La boulangerie aussi, c'est pas fini. Le centre du magasin, là, vous parliez plutôt du blackout, là.
Ouais.
Le métro a parlé du blackout. Ben, le blackout va essentiellement, la fin du blackout va essentiellement affecter le centre du magasin où on retrouve beaucoup de produits non périssables. Il y a eu la fin du gel hier de l'Oblast, donc on s'attend vraiment à des hausses là, d'ici les prochaines semaines. Pas des hausses violentes, là, mais des hausses incrémentales sur plusieurs semaines au centre du magasin.
Monsieur Charlebois, merci.
Bonne journée.
Bonne journée. Sylvain Charlebois, qui est professeur à l'Université d'Alousie.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.